Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Soyez les bienvenus sur votre libre antenne. Si bien sûr, toutefois, vous arrivez, chers amis, vous êtes sur la libre antenne. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de passer tout ce temps, presque deux heures avec vous. Il est déjà 23h12, car comme d'habitude, Raphaël Devolvé a été très long, mais info exige et il est tout à fait normal d'avoir un journal développé, appuyé et une parole d'expert comme celle de Raphaël Devolvé. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ces belles journées ensoleillées, que la vie va et que vous êtes heureux et heureuse d'être là avec nous. 01 80 20 39 21, c'est le nouveau numéro du standard de Europe 1. Vous pouvez nous y joindre Julia et Florian. Vous pouvez aussi leur écrire sur la page Facebook de la Libre Antenne en privé. Et puis vous pouvez aussi, bien évidemment, leur adresser un mail à libreantenne@europe1.fr si vous souhaitez développer un peu votre témoignage et peut-être un peu parler, échanger avec eux avant votre intervention sur l'antenne. Quant à moi, eh bien, je suis là. Vous pouvez appeler donc le standard et j'espère échanger avec vous très vite, ce sera en tout cas un plaisir. Votre libre antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Rose au 39-21. Bonsoir Rose.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Rose ?
Là, je suis actuellement à Paris.
À Paris, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 43 ans dans 22 jours, je crois.
Oh, bah, vous êtes Gémeaux, c'est une Gémeaux comme moi.
Non, je suis Cancer.
Ah, ça passe à Cancer deux, trois jours plus tard.
Exactement, je suis Cancer.
D'accord, ok.
Il paraît que je suis Cancer ascendant Cancer. Donc
d'accord, et la particularité du Cancer, quelles sont les particularités du Cancer ?
Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas très trop.
D'accord.
Mais c'est ce qu'on m'a dit.
Vous êtes comme moi.
Apparemment, je suis quelqu'un d'assez empathique. Après, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais
empathique.
Voilà.
Bon, ça veut dire qu'il vous reste un peu des réminiscences du Gémeaux, alors. Vous n'êtes pas passé loin.
Peut-être. Peut-être.
De quoi allons-nous parler, Rose ?
Je pense qu'on va parler de plein de choses.
D'accord.
Peut-être essentiellement d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Je ne suis pas ta mère.
Oui.
Qui aborde différents sujets.
D'accord.
Des sujets tristes comme des sujets un petit peu plus joyeux, comme par exemple viol sur les enfants, agression sexuelle, mais je parlais aussi d'amitié, d'amour et de famille, de filiation. Enfin,
d'accord. Ce livre, vous puisez votre inspiration, l'inspiration de ce livre, à quel moment de votre vie et pourquoi ?
Oui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. En fait,
vous savez, je suis quelqu'un de curieux.
Je vois ça. En fait, ce livre, je l'ai écrit il y a au décès de ma mère. Ma mère est décédée il y a 4 ans. Et lorsque j'ai appris son décès, plein de choses sont remontées à la surface. Vous savez, je pense qu'on cache beaucoup de choses pour pouvoir avancer dans la vie.
Oui.
Et moi, j'avais réussi à cacher pas mal de choses pour pouvoir arriver là où j'en suis. Et malheureusement, je n'arrivais pas à être totalement moi-même, totalement heureuse. Et au moment où elle décède, en fait, je comprends pourquoi je n'arrivais pas à être épanouie alors que j'avais tout pour l'être.
Qu'entendez-vous par vous n'avez jamais réussi à être totalement heureuse ? Ça se traduisait par quoi exactement ?
Alors, c'est-à-dire que au moment où elle décède, j'ai une agence de communication. Donc, j'ai monté une agence de communication. Je suis une serial entrepreneur, on va dire. J'ai déjà monté pas mal de business. J'ai un très beau métier que j'affectionne particulièrement puisque j'évolue dans le milieu du luxe, strass et paillettes. Je m'occupe de célébrités, entre autres. Et j'ai deux beaux enfants, ils sont magnifiques. Je ne dis pas ça parce que je suis leur mère. Un super mari, tout va très bien dans ma vie. Mais je n'arrive pas, je ne comprends pas. J'ai en filigrane une espèce de spleen qui ne me quitte jamais depuis que je suis petite. Je n'arrive pas à me sentir bien, j'étouffe. Et au final, au moment où elle décède, je comprends pourquoi j'étouffe. C'est que voilà, j'avais, pour avancer dans la vie, j'avais caché pas mal de choses, pas mal de traumatismes qui sont revenus au moment où elle décède.
D'accord. Donc, il remonte par quoi ? Par une mémoire enfouie et qui explose par des ressentis,
non,
des angoisses ?
Bon, je m'en étais pas du tout aperçue, en fait. Disons que j'ai un médecin qui est assez incroyable, qui s'est aperçu que j'étais en train de faire une dépression. J'étais venue en visite quelconque, comme ça, avec mes enfants, pour qu'ils puissent les examiner. Et puis, il a vu que j'avais une petite mine. Il me dit, bon, bah, écoutez, Madame Pierre-Louis, revenez me voir d'ici quelques jours, prenez un rendez-vous. Et je lui dis, mais docteur, je n'en ai pas besoin, tout va très bien. Il me dit, j'ai besoin de vous voir. Et donc, on se revoit, et en fait, le médecin, et il a été assez clairvoyant et perspicace. Il m'a posé les questions qu'il fallait. Et puis moi, j'ai commencé à lui dire, voilà, j'ai perdu ma mère. Mais ça va, hein, vous inquiétez pas, parce que moi, je suis habituée à dire que tout va très bien dans ma vie. Mais ça va, tout va très bien. Il me dit, vous êtes sûr ? Je lui dis, oui, bien sûr. Et puis, il m'examine, mais ça va pas, en fait. Et finalement, je commence par lui expliquer que, voilà, il me semble que quand j'étais petite, à l'âge de 5 ans, j'ai dû avoir des attouchements sexuels, et puis peut-être qu'à 6 ans, et puis en creusant, j'ai fini par parler. Et de là, il m'a dit, bon, écoutez, Madame Pierre-Louis, je fais une lettre pour que vous puissiez aller voir une psychiatre pour parler. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à tirer les fils et à comprendre que, en fait, j'avais vécu des choses très compliquées, très difficiles dans ma vie. Et c'est pour cela que je n'arrivais pas à embrasser totalement la vie que j'avais au moment où c'est arrivé.
D'accord. Alors, tout cela remonte loin, hein, me semble-t-il, puisque on parle là, vous me dites hein, si je me trompe, mais de blessures transgénérationnelles.
En fait, je crois que finalement, parce que moi, en fait, j'ai été élevée par que des femmes, ma mère, ma grand-mère, ma tante. Je connais, enfin, la figure paternelle, je ne la connais pas vraiment, on va dire. Et les femmes qui m'ont élevée, je pense que elles ont fait ce qu'elles avaient pu faire avec les moyens qu'elles avaient à l'époque. Et je pense que elles ont aussi vécu des choses pas très joyeuses, oui. Parce que je suis d'origine haïtienne. Il faut savoir que quand ma mère est arrivée à Paris, elle a fui la dictature, enfin la fin de la dictature de Duvalier, et elle est venue, elle n'avait rien. Et on s'est retrouvés, toute la famille, dans un petit studio. Et bon, elle n'avait pas le temps de nous dire qu'elle nous aimait, c'était pas le sujet. Et je pense qu'elle-même, elle n'a pas été suffisamment aimée dans sa vie. Et puis, sa mère aussi, la mère de sa mère, je pense que tout ça, ça c'est revenu, en fait. On porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et finalement, si on ne s'en défait pas, ça nous poursuit éternellement. Et quelque part, au décès de ma mère, moi, j'ai réussi à faire face à tout cela, enfin, grâce à mon médecin, parce que sinon, j'y serais encore. Peut-être que je serais décédée, je ne sais pas.
Et donc, ce livre, en fait, parce que j'aimerais revenir sur ce livre, vous avez eu besoin de l'écrire. Est-ce que l'envie, l'inspiration est montée comme quelque chose qui était nécessaire en vous ?
Alors, le livre, en fait, j'ai toujours aimé écrire. Oui. Ça a toujours été quelque chose qui a été là. Et puis, en fait, je me suis aperçue que j'avais besoin d'écrire pour faire face à mon histoire, pour me la réapproprier. Et au final, ce n'était pas du tout destiné à être un livre. À la base, c'était quelque chose pour moi. C'était cathartique. C'était pour expier tout ce que j'avais enfui en moi. Et au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture de tout cela, je me suis dit, bon, bah, peut-être que finalement, je vais laisser quelque chose à mes filles pour qu'elles sachent qui est vraiment leur mère, puisque moi, j'ai vécu dans quelque chose où il y a toujours eu une espèce de tabou, on ne dit jamais rien. Donc, je voulais qu'elles comprennent qui était leur mère. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue que j'écrivais bien, je crois. Et ça finit par devenir un livre.
Alors, vous avez parlé au début de votre intervention d'agression sexuelle, de viol dans l'enfance. Parce que votre combat et votre livre évoquent cela. Que s'est-il passé, en fait, dans cette enfance ? Est-ce que ces agressions, vous les aviez enfouies et ont-elles explosé à un moment ? Ou avez-vous toujours été consciente de ce qui s'était passé ?
Non. En fait, alors la première fois que j'ai été violée, parce que c'est un viol, j'avais 5 ans, c'était en Haïti. J'étais gardée par ma grand-mère et puis une personne est venue rendre visite à ma grand-mère et cette personne, en Haïti, c'est l'hospitalité, les portes sont ouvertes, on ne met pas de verrou, on ne prévient pas quand on vient à la maison, tout le monde est la bienvenue. Donc cette personne est venue, c'était un monsieur d'un certain âge, je me souviens très bien, il avait un très gros ventre. Il discutait avec ma grand-mère pendant qu'elle était en train de cuisiner, elle avait le dos tourné. Il m'a pris sur ses genoux de manière innocente. Donc ma grand-mère ne prêtait pas du tout attention.
On ne prête pas attention à un gentil monsieur au gros ventre, un vieux monsieur voilà, qui prend une petite fille.
Exactement.
Peut-être qu'on fait plus attention aujourd'hui quand même, mais bon.
Peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas en fait. Mais voilà, on fait confiance aux personnes que l'on connaît, personnes que l'on a l'habitude de voir, donc elle ne s'est pas du tout méfiée. Et puis, comment peut-on penser qu'un monsieur d'un certain âge puisse violer une petite fille pendant qu'on est en train de... Enfin, c'est juste, ça sort de l'entendement, c'est juste impossible, elle ne pouvait pas imaginer cela. Et donc, pendant qu'il discutait avec ma grand-mère, il a mis ses doigts dans mon vagin. Mmh. En fait, il a très fouillé. Donc, moi, j'ai découvert que c'était un viol il n'y a pas très longtemps. Je ne savais pas, parce que je n'avais pas compris que dès lors qu'il y avait pénétration, c'est un viol. Donc, je n'ai rien dit. Je n'arrivais à rien dire. J'étais comme pétrifiée. Et ce monsieur a continué, et puis il s'est essuyé à un moment donné, et quand il a terminé, il m'a donné un bonbon. C'est pour vous dire à quel point c'est pervers, parce que je suis une enfant, j'ai 5 ans, donc, et pour, je sais pas, pour, soit pour pas que je parle, pour que je sois contente sur l'instant, il m'a donné ce bonbon, et effectivement, j'étais très contente d'avoir ce bonbon. Mais quelque part, je savais que c'était mal. Et je n'ai rien dit. Je suis incapable de vous dire pourquoi je n'ai rien dit.
Beaucoup d'enfants, en tout cas d'ex-victimes, évoquent ce que vous évoquez, Rose. Beaucoup de victimes disent ressentir juste ce sentiment et l'effleurer même parfois. Savoir que ça n'est pas bien. Ce qui s'est passé. Parfois même, certaines victimes disent avoir la culpabilité d'avoir éprouvé du plaisir.
Bien sûr.
Mais avec ce sentiment qui les accompagne que ça n'est pas bien. Mais Voilà, tout ça a été fait avec un adulte censé être un référent, censé être un protecteur. Mmh. Et tout à coup, cet adulte s'est transformé en un autre chose qu'un enfant ne connaît pas. Il ne fait que supputer, ressentir que ça n'est pas bien, mais il n'en est même pas sûr. C'est là où finalement ces prédateurs, ces ordures jouent et s'infiltrent. Ils jouent sur ce point-là. Ils savent qu'un enfant ne se méfie pas d'un adulte.
C'est tout à fait ça. En fait, un enfant ne peut pas se méfier d'un adulte puisque l'enfant est censé, l'adulte est censé être la personne qui protège. J'ai vécu quelque chose assez similaire, notamment quand vous dites un enfant ne se méfie pas d'un adulte. Moi, j'avais une grand-mère qui était très, très, très adorable avec moi. Elle était juste incroyable, mais vraiment. J'ai souvenir que ma grand-mère repassait mes petites culottes tellement qu'elle m'adorait. Elle me vouait, ça sortait de l'entendement. En revanche, c'était une grand-mère qui était très mauvaise avec d'autres enfants, d'autres personnes. Je sais pas, il y avait une rage en elle, une haine incommensurable sur pas mal de choses. Et j'ai souvenir qu'elle gardait une petite fille qui devait avoir à peu près 4-5 ans, quand elle l'a gardée, et je sais qu'elle l'a maltraitée. Je l'ai écrit dans le livre, c'est un passage que je ne peux pas relire, c'est juste impossible. Et je me souviens qu'elle affamait cette petite. Oui, elle affamait, elle ne donnait pas à manger, elle ne la changeait pas. C'était très douloureux. Et cette petite, en fait, elle adorait ma grand-mère parce que juste avant que sa mère arrive, ma grand-mère lui donnait à manger et la changeait, la choyait et était très sympa avec elle juste avant que sa mère arrive. Donc forcément, avant que la mère de la petite arrive, elle était bien, elle était joyeuse, elle se jetait dans les bras de ma grand-mère et donc c'était son sauveur. Donc finalement, quand on est un enfant, on peut nous faire les pire crasse du monde.
Oui, les enfants mettent de la magie un peu partout et peuvent tout pardonner. On va faire une petite pause, Rose, et puis on va continuer de parler de cette grand-mère parce que j'aimerais vous poser 2-3 questions sur elle. À tout de suite.
À tout de suite.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
Ils ont été dépassés par leurs inventions, Joseph Ignace Guillotin, Jean-Robert Oppenheimer et Ethan Zuckerman. Eh bien, ce sont ces 3 personnalités qui ont été dépassées par leurs inventions. Et vous en saurez plus si vous écoutez demain Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. C'est tous les jours de la semaine de 16h à 18h. Vous êtes bien évidemment sur la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. J'en profite pour remercier Florence qui nous envoie son petit message chaque soir. Merci pour votre fidélité. Et puis demain soir, je remercierai aussi toutes les auditrices et tous les auditeurs qui m'ont envoyé plein de choses ici à la libre antenne pour mon anniversaire. Et voilà, j'étais très surpris et très touché, bien évidemment. Et comme vous êtes nombreux et nombreuses, je prendrai le temps de vous remercier demain soir, chers amis. Rose, cette grand-mère, est-ce que vous avez su ou non si elle aussi avait subi des choses durant son enfance, son adolescence ? Car Haïti a la triste réputation d'être une terre de viol, une terre d'inceste.
Je sais pas.
Je
découvre ce soir là, mais je sais pas parce qu'en fait moi de tous les études que j'ai pu faire, de tout ce que je peux lire, le viol, l'inceste est partout dans toutes les strates de la société, qu'elle soit occidentale, africaine, orientale, asiatique,
elle est présente, plus vous avez des conditions de vie pauvres qui réunissent des familles dans des endroits petits, étriqués. Voilà, ces conditions de vie, malheureusement, ont favorisé l'inceste, ont favorisé des comportements tels que cela. Et Haïti n'est bien évidemment pas le seul pays à être qui a cette particularité, mais je me souviens depuis déjà une bonne trentaine d'années d'avoir entendu bon nombre d'histoires concernant ce type de comportement.
Peut-être là, pour le coup, Olivier, je ne peux pas...
D'accord, non, mais je vous le disais au passage.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été violée une fois en Haïti et les autres fois, c'était à Paris et pas forcément dans un milieu haïtien.
D'accord, d'accord. D'autres viols, d'autres viols donc, ont été perpétrés en métropole.
Tout à fait. Exactement. Mais j'aimerais revenir quand même sur ce point-là.
Après, allez-y, je vous en prie.
J'ai fait j'ai fait de nombreux talks, tables rondes. J'ai pu discuter avec différentes personnes de tout milieu. J'ai même fait une intervention à l'Assemblée nationale. J'ai eu à chaque fois les mêmes retours dans toutes les strates. Cela étant dit, j'ai rencontré un journaliste aux Antilles, martiniquais, qui m'a fait remarquer que 51% des cas traités au tribunal concernent l'inceste, concernent les viols et plus particulièrement l'inceste en Martinique. Après, ça mérite de se pencher sur la question de savoir pourquoi il y a une telle concentration. Est-ce que c'est parce qu'il y a un effet de loupe ou est-ce que c'est parce que on commence à en parler de plus en plus et pour le coup, il y a plus de personnes qui portent plainte et il y a plus la loi fait plus remonter cela, ou comme vous le dites, peut-être est-ce que c'est parce que c'est des milieux très fermés, très sclérosés, je ne sais pas.
Là,
je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, j'ai eu ce chiffre-là qui m'a interpellée. J'ai rencontré une personne aussi qui a étudié ces questions-là et qui m'a notamment dit oui, c'est vrai, par rapport aux chiffres que l'on a de la métropole et des Antilles, il y aurait a priori une prépondérance pour ce type de crime. Parce que voilà, ils ont utilisé les mêmes métriques. Par contre, je ne saurais pas vous dire pourquoi.
Oui.
Mais après, peut-être. Là, pour le coup, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, moi, ça m'est arrivé. Je n'ai rien demandé à personne. Je constate que pour avancer, il a fallu que moi, je mette tout cela de côté. Que je range tout ce traumatisme quelque part dans ma tête pour pouvoir avancer, parce que sinon, c'est impossible d'avancer avec ce type de traumatisme. Après, oui. Ma grand-mère, peut-être, je ne sais pas, puisque dans notre famille, on n'a jamais parlé de ce type de sujet. Ce n'est pas possible. Ce sont des tabous, personne n'en parle. C'est juste impensable. Donc peut-être qu'elle a vécu, elle a vécu un viol, peut-être que mon arrière-grand-mère aussi, peut-être que ma tante, je n'en sais absolument rien. Toujours est-il que moi, je ne veux pas que mes enfants, les enfants de mes enfants, ne sachent pas ce qui m'est arrivé
complètement.
Pour qu'elles comprennent. Et en fait, on a besoin de comprendre, on a besoin de déconstruire pour pouvoir avancer. Sinon,
et permettez-moi de rajouter qu'on a besoin de comprendre, comme vous le dites, mais de parler, de faire la lumière sur ces blessures-là. Car tant que la lumière n'a pas été faite, je viens de terminer un film dessus, la blessure et donc la douleur qui accompagne la blessure transgénérationnelle, non seulement ne s'arrête pas, mais elle se transmet de génération en génération et transmet donc à nos enfants ce poids, cette souillure, cette douleur, cette plaie dont ils ignorent complètement l'origine. Et c'est ce pourquoi le combat, en tout cas le combat qui a été le vôtre et qui continue d'être le vôtre pour que vérité soit connu est tellement important pour vos enfants en premier. bien évidemment pour vous, hein, mais pour vos enfants. Vous évoquez ces viols sans rentrer dans le détail, bien évidemment. Vous êtes victime de deux autres viols ici en France.
Exactement.
À quelle époque, en fait, en tant qu'ado, en tant que jeune adulte?
En fait, un an après que cela m'est arrivé à Haïti, quand j'avais 5 ans, je suis venue rejoindre ma mère qui avait obtenu l'asile politique.
Oui.
À l'époque, on avait... c'était beaucoup plus facile, il me semble, d'avoir le regroupement familial. Donc, j'ai pu la retrouver et on s'est retrouvés dans un petit appartement. Encore une fois, les portes sont toujours ouvertes. On fait toujours confiance. Personne ne prévient personne quand on vient à la maison parce que on est une terre, c'est l'hospitalité, encore une fois. Et en fait, on habitait dans un petit appartement assez exigu de 10 mètres carrés où on était tous là. Et sur le palier, il y avait les toilettes et les douches. Et donc, moi, j'ai réussi à m'éclipser quand un jeune homme est venu avec sa maman rendre visite, encore une fois, à ma grand-mère, ma tante qui était là. Ma mère n'était pas là. Donc, j'ai été sur les paliers pour faire pipi. Et ce jeune homme s'est faufilé dans les toilettes. Et encore une fois, m'a violée. Et donc, je me souviens qu'il m'a dit « Tu n'as pas intérêt à parler, sinon je te tue », quelque chose de ce genre.
Enfin, mon Dieu.
C'est peut-être pas si... peut-être pas si clair que ça dans la manière dont tu l'as dit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et puis, de toute façon, je savais que ça m'était déjà arrivé. Donc, c'est très simple, en fait. J'étais plus là. Je suis sortie de mon corps. Et puis, il a fait ce qu'il devait faire. Et finalement, il y a ma tante qui est arrivée, qui nous a surpris. Je pensais qu'elle allait me sauver, finalement. Et au contraire... Ça a été, j'ai été réprimandée parce que j'aurais séduit un jeune homme en pleine croissance.
Du haut de vos 6-7 ans.
Du haut de mon 6, voilà. C'est ça.
Votre tante vous a dit que vous aviez été une petite allumeuse par rapport à ce jeune homme.
C'est ça, oui.
Eh ben.
C'est qu'il faut que je fasse attention. Enfin, en gros, c'est qu'il faut faire attention au jeune homme. Parce que, voilà, on ne sait pas... Il n'a pas dit dans ces termes-là, mais c'était à peu près ça. Mais
c'est fou, hein, parce qu'à chaque fois qu'on me raconte ce type d'histoire, entre vous, ce que vous me racontez ce soir, la semaine dernière, une femme qui témoigne de viols à répétition commis par deux prêtres à Vaux-en-Velin, chez sa grand-mère aussi. Je dois être trop naïf, mais autant d'esprit tordu que ça, c'est quelque chose qui m'échappe complètement et qui échappe bien évidemment à l'esprit des enfants, à la vigilance des enfants. Comment peut-on imaginer ces intentions malsaines? C'est fou. Sur cette libre antenne, j'entends tellement de ces histoires que c'est... c'est quelque chose qui est très...
Je comprends que vous puissiez dire cela, mais cela va peut-être vous paraître incongru, mais je n'ai jamais été en colère contre ma tante, ma grand-mère, etc. Parce que finalement, elles ont fait ce qu'elles ont pu.
Elles ont fait comme elles pouvaient, oui.
Comme elles pouvaient avec les outils qu'elles avaient. Et puis, quelque part, pour se protéger soi-même, on est obligé aussi de faire comme si c'était pas la réalité, c'était autre chose. Donc, parce qu'au final, reconnaître, dire « oui, c'est vrai, il t'a violé », ça veut aussi quelque part dire « je n'ai rien vu, je n'ai rien fait, je ne t'ai pas protégée ». Et finalement, c'est aussi se remettre, c'est aussi accepter d'avoir été quelque part complice. Donc, je peux comprendre qu'elle réagisse comme ça, parce que voilà, ça remonte à bientôt 30 ans, on n'était pas aussi éclairés.
Bien évidemment.
Tout ça, etc. Maintenant, je comprendrai un peu moins, mais cela étant dit, je n'ai jamais été en colère contre les personnes qui m'ont élevée. Je fais avec.
Mais, oui. Avez-vous été en colère après les hommes ?
Non.
Étonnamment.
Étonnamment, en fait, je n'ai de colère envers personne, en fait. Je suis, ça va peut-être aussi vous paraître assez paradoxal, mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un violeur. J'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un agresseur.
Oui.
Je ne suis pas dans la posture en me disant que ce sont justement des monstres, des ordures. De ce que je lis, de ce que je peux comprendre, de ce que je peux voir, ce sont des personnes tout à fait ordinaires.
Mais un peu malades quand même. Enfin, un peu...
Non, ce ne sont pas des personnes malades. Le fait de dire que ce sont des personnes malades, ça veut dire que beaucoup de personnes sont malades.
Oui, mais c'est le cas, Rose. C'est le cas.
On ne peut pas
considérer qu'un homme de 60 ans, qu'un homme de 30 ans, qu'un jeune homme de 25 ans, qu'un adolescent de 16 ans puisse avoir un acte sexuel avec un enfant de 5 ans ou 6 ans. Il y a dans cet esprit-là
quelque chose de tordu, de déviant.
Et j'appelle cela, alors peut-être le terme n'est-il pas approprié, mais je pense que c'est pourtant le meilleur. Il y a quelque chose de l'ordre de la maladie. Il y a une déviance, donc oui, une maladie psychique, quelque chose qui ne va pas. Je n'ai jamais eu ce type d'envie. Tout autour de moi, les hommes qui font partie de mon entourage n'ont jamais eu non seulement ce type d'envie, et ont toujours été d'un respect total avec les femmes et ont toujours vécu avec les femmes. Et quand je dis avec, c'est-à-dire en communion, en pleine communion et parfois sexuelle, mais dans le respect du désir de l'un et de l'autre.
Excusez-moi Olivier, mais je pense que ça, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe.
Au bout de 30, 40 ans d'amitié, vous connaissez les hommes qui vous entourent, si. Parce que...
Chaque foyer est un monde.
Oui, chaque foyer, bien évidemment, mais vous... Bon.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Pour avoir, si vous
mais
voulez...
Avez déjà entendu un homme dire « Oui, j'ai violé ma petite fille. Oui, j'ai violé une personne. Oui, j'ai agressé sexuellement. »
Mais je pense... Vous savez quoi, Rose ? Je pense que cela fait partie de la déviance de ne pas se rendre compte de l'impact et de la force de l'impact que cela peut avoir sur une femme, une petite fille. Je pense que justement cela fait partie de la déviance, de penser que l'on peut disposer sexuellement de quelqu'un. Il y a dans cet acte-là, barbare pour moi, bien évidemment, le désir qui naît, comme chez chacun de nous, un plaisir sexuel, mais qui est là, disproportionné, et qui engloutit toutes les règles, tout le respect que l'on doit à l'autre. Et je ne pense pas être un béni oui-oui en parlant comme ça. Je pense plutôt...
Absolument pas. Non, vous êtes,
je pense plutôt être dans la norme, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes rejoignent ce discours.
Évidemment, tout le monde le dit, même les violeurs, les agresseurs, tout le monde le dit. Mais force est de constater qu'il y a un nombre incommensurable de personnes qui violent et qui incestent des enfants.
Complètement.
Les chiffres sont là.
Les chiffres
Donc,
sont là.
Du coup, effectivement, évidemment, ce que vous dites est totalement vrai. C'est impensable. Mais il est impossible de pouvoir justifier ce que vous dites. Parce que chaque foyer est un monde. Encore une fois, il n'existe pas d'association, il n'existe pas de cercle de parole, de personnes, pas de victimes.
D'agresseurs.
Les victimes existent d'agresseurs. Il n'en existe pas.
Il y en a, si, il y en a, mais contraints et forcés de participer à ces groupes de parole qui s'inscrivent dans le cadre d'une thérapie.
Bien.
Mais autrement,
ça, c'est bien.
Bien évidemment, nous n'avons pas, au même type que les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes ou les joueurs anonymes, les violeurs anonymes.
Exactement.
Et c'est sûrement bien dommage, vous avez raison.
Évidemment, moi je suis la première à dire j'aimerais comprendre ce qui se passe. J'aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête. Quel est le mécanisme? À quel moment un homme ou une femme, puisqu'il y a aussi des femmes qui agressent,
oui,
en
fait, oui. Moins proportionnellement,
mais ça existe.
Ça existe.
J'aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes. À quel moment ils décident de disposer du corps d'un enfant qui est là? Pourquoi?
Pourquoi aimeriez-vous savoir pourquoi?
Pourquoi j'aimerais comprendre?
Ça vous permettrait de faire du chemin?
Non, non, non. Ça permettrait à tout le monde de déconstruire. Parce qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu veux savoir? Quand on comprend un problème, on essaie de trouver des solutions. Quand on comprend pourquoi telle personne agit... j'aimerais aller dans les prisons et comprendre... Et discuter, échanger avec ces personnes. J'aimerais savoir ce qui se passe dans leur tête, parce que ce sont des personnes comme vous et moi. Encore une fois, la figure du violeur et de l'agresseur n'est pas quelqu'un qui est dégueulasse, qui crie. Ça peut être quelqu'un de très doux, ça peut être quelqu'un qui adore ses enfants, bien sûr.
Oui, mais vous convenez qu'à partir du moment où il bafoue les droits de l'autre, la liberté de l'autre, en prenant quelque chose sans demander, parce que c'est ça un viol. Tout ça explose en mille morceaux.
Bien
sa
sûr.
Douceur, sa, tout son éducation, tout. Il peut être le meilleur des individus en société, et vous avez raison de le souligner. Tout à l'heure, vous soulignez que les viols et l'inceste ne touchent pas que les milieux pauvres, même si proportionnellement, oui, à cause d'endroits de vie exigus. Mais c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, hein, lorsque vous me parlez de toilettes et de douches sur le palier d'un petit appartement à Clichy-sous-Bois, les conditions étaient réunies pour que dans cet endroit, tout tordu puisse se glisser pour vous agresser. Et c'est ce qui s'est passé.
Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a une recrudescence et un chiffre qui est beaucoup plus important dans les milieux pauvres que dans les milieux aisés. Ce n'est pas vrai. Ça, je peux pas vous laisser dire cela, parce qu'on l'a vu avec notamment les affaires qui sont sorties récemment, parce qu'il y a plein de gens qui ont parlé depuis MeToo. Et ces personnes-là aussi m'ont permis aussi de prendre la plume et de m'exprimer, parce que voilà, c'est aussi plus facile de parler quand d'autres personnes parlent pour nous. Je pense notamment à Mesnef, à Kouchner, à Vaina Djekond, qui en a parlé récemment.
Tous les milieux sont touchés, vous avez raison.
Tous les milieux sont touchés. Donc, c'est assez inaudible pour moi d'entendre dire que, voilà, parce que dans les milieux pauvres, il y a peut-être une récrudescence. Je ne sais pas, là, pour le coup... il faudrait que je vérifie, mais je ne peux pas vous...
Mais vérifiez, Rose. Vous verrez que proportionnellement, les conditions de vie, malheureusement, prêtent à ça. Mais vous allez aux Philippines, par exemple, où les gens vivent des familles très nombreuses. Et malheureusement, voilà, ce pays qui est un exemple,
vous
à Manille...
Vous savez, Olivier, les personnes... on va dire, je ne sais pas, les notables qui ont des très belles maisons.
Mais je ne vous dis pas je ne vous dis absolument pas le contraire, Rose. Je vous dis que tous les milieux sont touchés. Je vous dis simplement que proportionnellement, parce que les conditions de vie dans des endroits exigus favorisent ce type de comportement. Je ne vous dis pas, je ne pointe pas du doigt les milieux défavorisés en disant qu'il y a... des violeurs, je dis simplement que des conditions de vie, et ne nous attardons pas trop là-dessus parce que...
Oui, exactement, c'est tout ce que j'allais vous dire. Revenons plutôt sur la figure de l'agresseur et du violeur, de ce que l'on était en train de dire au sujet de ces personnes-là, pourquoi ces personnes-là violent. J'ai lu un livre qui est vraiment très très bien fait, qui s'appelle Le berceau des dominations d'une sociologue, anthropologue, qui a étudié pendant 7 ans l'inceste dans tous les milieux. Et elle dit que finalement, pourquoi les personnes violent, incestent, agressent sexuellement, c'est pas du tout parce que ces personnes-là sont malades, c'est juste parce que, en fait, l'enfant est là et à disposition. Ils peuvent disposer du corps de l'enfant, ils savent que l'enfant ne va pas parler. C'est une norme sociale. L'idée, c'est de dire que, parce qu'en fait, pourquoi ces personnes-là, s'ils ont des pulsions sexuelles, ils peuvent très bien aller voir des putes. Là, c'est gratuit. L'enfant est à disposition. Oui. Et en plus, ça part pas. Et en plus, on peut revenir quand on veut. Donc, finalement, si on regarde bien, c'est parce qu'en fait, on se tait, personne ne parle. C'est-à-dire que il y a aussi, on sait aussi que les mères, les personnes qui entourent l'entourage, voient certaines choses, comprennent certaines choses, savent quelque part, mais personne ne parle. Pourquoi on ne parle pas, Olivier, à votre avis ?
Parce qu'on a peur. Parce que on a honte. Oui,
la
pour continuer de vivre, sans doute. Ouais.
Pour continuer de vivre, c'est trop dur. On ne peut pas avancer. Et comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien ma tante, quand elle a vu ça, à mon avis, enfin, moi, je l'analyse de cette manière, ma tante, c'était trop dur, trop compliqué pour elle de reconnaître
trop violent.
Que... C'est trop violent, c'est impossible. C'est-à-dire que voilà, il faut faire comme si de rien n'était. Ou alors c'est arrivé, mais alors tu fais attention, écoute les jeunes hommes qui ont des hormones, faut faire attention, etc. Les mères qui voient le mari qui viole leur enfant, c'est inaudible. Donc pour avancer socialement, la norme veut que tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Dès lors que tout le monde se tait, il n'existe pas de viol et d'inceste. Et pour le coup, moi je milite pour que l'on puisse parler et que l'on puisse dire les choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre tout le monde en prison, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi ça arrive ? Pourquoi on ne parle pas ? Pourquoi personne ne dit rien ?
Et vous avez raison de souligner cela avec insistance, car vous en êtes l'exemple même, puisque vous dites que malgré un beau mariage, de beaux enfants, une réussite professionnelle au-delà de vos espérances, vous êtes ce qu'on appelle une transclasse. Vous avez bougé d'une classe à l'autre. Le décès de votre mère fait tout exploser. Le traumatisme du départ de votre mère vous met face à vous, finalement, et à ce bonheur tronqué. Ce faux bonheur.
Ah oui, non mais totalement. Hein. Moi, je le reconnais. Dans le livre, à un moment, je dis, je pensais que j'ai été beaucoup plus intelligente qu'elle. Je pensais que moi, j'avais réussi là où elle avait échoué. Je pensais que jamais je resterais dans des sentiments complexe, des sentiments étriqués. Moi, je pensais que j'étais arrivée et que j'avais tout. J'avais la connaissance. Je navigue dans certains milieux. Enfin, je suis ce qu'on appelle un caméléon. Je m'entends très bien avec des personnes qui évoluent dans des milieux qui n'ont pas été les milieux que j'ai pu côtoyer quand j'étais petite. Et inversement, je me sens très bien quand je retourne dans le 93. J'ai aucun souci avec ça.
Pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que ces événements tragiques, en tout cas cette violence, ces blessures, pour vous, de votre point de vue, ont été un moteur pour toute l'énergie que vous avez déployée et dans toute cette réussite que vous avez connue ?
Il faudrait que je me pose et que je réfléchisse à la question. Ce que je sais, c'est que lorsque l'on a eu autant de traumatismes, lorsque l'on a vécu autant de choses très compliquées dans la vie, on ne se pose pas la question, justement, on avance. Soit on tombe, soit on continue d'avancer. Moi, dans mon caractère, c'est pas ça. Je suis obligée d'avancer, je suis obligée de faire plein de choses pour pouvoir continuer à vivre. Et je pense que finalement, ça m'a réussi, puisque J'ai toujours envie d'aller, de me dépasser. J'ai 10 milliards de projets en même temps. Et peut-être quelque part, si j'ai 10 milliards de projets en même temps, c'est pour m'éviter de penser à ce qui m'est arrivé, pour m'éviter de réfléchir. C'est peut-être parce que ma mère est décédée que là, tout est revenu, j'ai commencé à réfléchir. Avant, oh, jamais je réfléchissais à tout cela. C'était « c'est arrivé, tant pis, c'est pas grave, on avance ». Peut-être que ça a été un moteur, je ne sais pas.
Quel regard portez-vous sur vos deux petites filles par rapport à elles ce qui vous est arrivé?
Elles sont incroyables. Mes filles sont vraiment assez incroyables dans le sens où, quand j'ai écrit le livre, j'en ai parlé à la première. Ça a été la journée la plus difficile de toute ma vie. J'ai mis du temps avant de lui dire. J'ai dû parler vers 21h.
Quel âge ont-elles?
Victoire, il va avoir 9 ans et Toscane va avoir 6 ans. Et Victoire, quand je lui en ai parlé, elle avait 8 ans, je crois. 7 ans. Et je me souviens que je lui ai vraiment expliqué de A à Z ce qu'il y avait dans le livre, bon, avec des mots qu'elle puisse comprendre. Hein, j'ai voulu qu'elle sache avant qu'on lui explique ce qu'il y avait dans le livre, parce que dans l'école, on commence à dire « Ah, ta maman, elle a écrit un livre ». Donc, je lui ai expliqué. Eh bien, elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré parce que pendant deux nuits, je pense qu'elle n'a pas beaucoup dormi, elle ne dormait pas bien, elle était mal, elle me disait « Je repense à ce qu'il t'a fait, le monsieur, je repense à ce qui s'est passé avec ta maman, tout ça, etc. Mm-hmm. » Mais voilà, c'est la vie aussi. Je veux dire,
c'est la vie.
Je ne veux pas faire l'impasse. Mm-hmm. Et elle comprend et on a une relation assez saine où on est beaucoup dans l'échange.
Vous avez raison, Rose. Vous avez raison. Pourquoi, et c'est ma dernière question, car l'info arrive, « Je ne suis pas ta mère », paru aux éditions RPL. Pourquoi le titre ?
Pourquoi « Je ne suis pas ta mère » ? Alors, Olivier, je vais être obligée de vous dire qu'il faut aller à la dernière page du livre pour comprendre pourquoi « Je ne suis pas ta mère », parce que le livre est écrit de telle sorte que l'on ne comprenne le titre qu'à la fin.
D'accord. Alors, on ne spoil pas, comme on dit aujourd'hui.
Il ne faut pas spoiler. Sinon, ça ne va pas le faire.
Bon, en tout cas, merci, Rose, pour votre parole ce soir sur Europe 1. Elle est précieuse. Elle est précieuse pour toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent ce soir et qui, j'en suis sûr, n'ont pas encore parlé, évoqué ces traumatismes vécus dans leur enfance, dans leur adolescence. Et. Vous êtes une parole de plus qui vient s'ajouter à cette vérité qu'il faut faire éclater pour que vous alliez mieux et que les vôtres, votre descendance, vos enfants, aillent mieux, car ce malaise touche tout le monde tant qu'il n'est pas révélé. Je rappelle que votre livre s'appelle « Je ne suis pas ta mère », paru aux éditions RPL, et que votre site, le livre est disponible sur le site je-ne-suis-pas-ta-mère.com. Merci Rose.
Olivier, juste pour vous dire que le livre est disponible partout, en fait, à la FNAC, à Amazon, en librairie, un petit peu partout. Et enfin, je voulais préciser que oui, je parle pour mes filles, mais je parle aussi pour les filles de mes filles, les enfants des enfants des enfants. Je parle en fait pas que pour moi en fait. Moi, voilà, ça m'est arrivé.
J'ai bien compris.
Je parle vraiment pour qu'on puisse pour que la parole puisse se libérer de plus en plus et pas que dans certains milieux.
Très bien, Rose. Voilà. Ben, on vous embrasse bien fort et merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1.
Écoutez,
je vous en prie.
Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.